Bonsoir et bienvenue dans cette édition du 19h. Nous sommes ensemble pour une demi-heure d'information dans l'actualité ce soir. Les nouvelles règles d'isolement pour les personnes positives au Covid ou cas contact dévoilées par le ministre de la Santé Olivier Véran. Pour les personnes vaccinées, testées positives, quel que soit le variant, 7 jours d'isolement ramenés à 5 avec un test négatif. Et à l'école, le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, dévoile ce soir le nouveau protocole sanitaire pour la rentrée de demain. Les précisions et le point sur tous les changements à partir de demain, dans un instant avec Elia Bergel et Faustine Calmel. Un troisième féminicide depuis hier, 1er janvier. Une femme de 46 ans retrouvée morte dans le coffre d'une voiture à Nice. Sophie Barre du collectif Nous Toutes dénonce une politique sans ambition.
La situation n'a pas évolué parce qu'on a un gouvernement qui a fait beaucoup d'annonces et qui a mené une politique sans ambition, et donc il ne s'est rien passé et la violence n'a pas baissé.
La fin de la polémique autour du drapeau européen sous l'Arc de Triomphe. Le drapeau a été retiré conformément au programme prévu. Le Rassemblement National parle d'une victoire patriotique. Dans ce journal également, le Parlement sud-africain détruit dans un incendie et une mise de 80 centimes qui rapporte le jackpot au casino de Saint-Malo. Vos rendez-vous du 19h avec la page sport. Au menu du football et les 16e de finale de la Coupe de France. Et on s'intéressera également à la préparation chaotique de l'équipe de France de handball avant l'ouverture le 13 janvier de l'Euro. La météo pour demain, nuages et pluie au nord, soleil au sud. Jean-Pierre Hameau à la fin de cette édition à 19h30, les petits bateaux Noël Bréham.
Bonjour, je m'appelle Elia, j'ai 9 ans et je voudrais savoir pourquoi quand on additionne deux chiffres impairs, ça fait toujours un nombre pair. Merci de répondre à ma question.
Les petits bateaux après ce journal.
France Inter.
La décision était attendue par des millions de Français positifs au Covid ou actuellement cas contact. Les entreprises également attendaient de connaître les nouvelles règles d'isolement. Elles ont donc été dévoilées ce matin par Olivier Véran. Des règles simplifiées et harmonisées, explique le ministre. Pour les personnes positives au Covid mais vaccinées, l'isolement est de 7 jours, mais il pourra être levé au bout de 5 jours en cas de test négatif. Pour les non vaccinés, la quarantaine est de 10 jours avec une sortie possible au bout de 7 jours en cas de test négatif. Enfin, pour les cas contacts, 7 jours d'isolement si vous n'êtes pas vacciné, pas d'isolement si vous êtes vacciné. Les mêmes règles pour tout le monde, quel que soit le variant, Delta ou Omicron. Bonsoir Elia Bergel.
Bonsoir.
Et les chefs d'entreprise se félicitent de ces annonces, ils sont même soulagés.
La grande crainte pour les patrons, ce sont les arrêts maladie en cascade en janvier, entraînés par la hausse brutale des cas de Covid. Franck Delvaux, le président de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie en Ile-de-France, constate déjà un ralentissement de l'activité.
Il y avait déjà certains établissements qui commençaient à être touchés par ce virus, et qui se trouvaient dans l'impossibilité d'exercer, ou même certains ont dû fermer ou restreindre leurs horaires.
Et pour le représentant du MEDEF en Gironde, Franck Allard, cette durée d'isolement réduite pour les malades est un bon compromis.
Nous sommes déjà à vivre avec le Covid depuis 20 mois, et je pense que l'expérience que les scientifiques ont accumulée permet d'ajuster le curseur et de ne pas le laisser fixer là où en fait il a été fixé il y a 20 mois.
En revanche, certains syndicats sont plus sceptiques. Sylvie Vachou, secrétaire fédérale CGT Commerce et Distribution, voit le curseur placé avant tout sur l'économie.
C'est vraiment à des fins économiques et non plus sanitaires. Je trouve ça assez paradoxal quand même avec les mesures qui ont été prises depuis 2 ans, où on isolait un maximum quand même les personnes malades. Elle tue quand même, n'oublions pas cette maladie. Je veux dire, on ne parle pas d'un simple rhume là.
Et le ministère de la Santé, de son côté, assure que ces nouvelles règles n'ont qu'un objectif, maîtriser les contaminations et maintenir la vie socio-économique.
Elia Bergel, merci. Et puis Matignon annonce ce soir que le Premier ministre Jean Castex réunira demain, lundi, dans l'après-midi, 10 de ses ministres pour faire le point sur Omicron et sur la continuité des services publics essentiels, hôpitaux, enseignement, transport, administration et armée seront notamment concernés par les discussions. Isolement, on vient de le voir, télétravail, masque pour les enfants. Beaucoup d'entre nous sommes partis en vacances il y a 15 jours avant les fêtes et en 15 jours, le variant Omicron s'est installé à la vitesse de l'éclair et en ce début d'année 2022,
il est marqué par de nouvelles mesures qui entrent en vigueur demain lundi. Bonsoir Faustine Calmel.
Bonsoir.
On débute par les changements pour les enfants et notamment un nouveau protocole à l'école pour la rentrée de demain.
Oui, pour les écoliers comme pour les adultes, les tests vont se multiplier. Si un élève est positif, ses camarades de classe devront se faire tester le jour même, puis 2 et 4 jours plus tard. Autre nouveauté pour les plus jeunes, c'est désormais à partir de 6 ans qu'ils devront porter le masque partout où c'est obligatoire pour les plus grands. Donc en plus de l'école, dans les transports, les magasins, les bibliothèques, gymnases ou même en extérieur dans une cinquantaine de départements. Pour les adultes qui reprennent le travail demain, tout le monde n'ira pas au bureau, c'est le retour du télétravail dans les métiers où c'est possible. Au minimum 3 jours par semaine, préconise le gouvernement. Et les entreprises qui ne s'y plieront pas risquent des sanctions, 1000 euros d'amende par salarié. Côté sortie, enfin, on ne pourra plus boire un café ou manger un sandwich debout dans les bars au comptoir. Tout le monde doit être assis. On ne peut plus non plus manger au théâtre, au cinéma ou au stade. Les équipements sportifs et culturels où c'est le retour des jauges. 2000 personnes en intérieur et 5000 en extérieur maximum.
Faustine Calmel, merci. Ces nouvelles règles d'isolement et les changements en vigueur à retrouver en détail sur notre site franceinter.fr. Je vous signale également que demain matin à 7h50, Olivier Véran, le ministre de la Santé, sera l'invité de Léa Salamé. Et puis demain matin également, vous pourrez suivre notre première matinale spéciale présidentielle, Élysée 2022. Les candidats face à la matinale avec comme premier invité Jean-Luc Mélenchon, candidat de l'Union Populaire face aux journalistes de la matinale, donc de 8h20 à 9h30. Le collectif féministe Nous Toutes en colère après 3 féminicides depuis hier, 1er janvier. Le corps sans vie d'une femme de 46 ans a été retrouvé dans le coffre d'une voiture à Nice. Son compagnon, âgé de 60 ans, a été placé en garde à vue. Hier déjà, 2 femmes âgées de 27 ans et 56 ans avaient été tuées à coups de couteau dans le Maine-et-Loire et en Meurthe-et-Moselle. Leurs compagnons ont également été placés en garde à vue. Le collectif Nous Toutes dénonce le silence d'Emmanuel Macron et du gouvernement. Sophie Barr, membre du collectif Nous Toutes.
On est à la fin d'un quinquennat qui était censé être celui de l'égalité entre les femmes et les hommes. Je rappelle qu'Emmanuel Macron, en 2017, a décrété grande cause nationale l'égalité entre les femmes et les hommes. Et 5 ans après, on peut faire un bilan. Et le bilan, il est que la situation n'a pas évolué parce qu'on a un gouvernement qui a fait beaucoup d'annonces, qui a fait beaucoup de communication, et qui a mené une politique en demi-teinte, une politique sans ambition, sans moyens, sans volonté dans la durée, sans engagement sur le terrain, et donc il ne s'est rien passé. Et la violence n'a pas baissé. La violence conjugale, c'est 220 000 femmes par an. Donc est-ce que c'est avec 300 bracelets anti-rapprochement qu'on va lutter contre ce problème ? Bien évidemment que non. Nous, ce qu'on demande, ce sont des politiques d'ampleur, avec des ministres qui s'engagent sur le terrain, au quotidien, pour modifier en profondeur les pratiques des institutions.
Sophie Barr, membre du collectif Nous Toutes. En politique, fin de la polémique autour du drapeau européen. Sous l'Arc de Triomphe, le drapeau européen bleu avec ses 12 étoiles à 5 branches et qui flottait sous l'Arc de Triomphe pour marquer le début de la présidence française du Conseil de l'Union européenne a été retiré la nuit dernière, conformément au programme initial sur l'Élysée. L'extrême droite revendique une victoire patriotique. Marine Le Pen, candidate du Rassemblement national, remercie la mobilisation des amoureux de la France et de la République, dit-elle, qui a permis de faire reculer Emmanuel Macron. Absolument pas, répond Clément Beaune, le secrétaire d'État aux Affaires européennes, invité à la mi-journée de questions politiques sur France Inter. Il n'y a eu aucune reculade.
Moi, je suis très fier que le drapeau européen ait flotté. C'était prévu pour rester ce week-end. Nous sommes dans le calendrier prévu, mais je suis très fier que ce symbole ait été arboré, pavoisé. Le drapeau français, puisque Marine Le Pen, inspirant M. Zemmour, inspirant Mme Pécresse et M. Ciotti, puisque mot pour mot, dans les communiqués, dans les tweets, les mêmes mots utilisés par Mme Pécresse et par l'extrême droite. Ils ont dit n'importe quoi et ils ont menti. On voit bien qu'il n'y a pas un drapeau français qui a été retiré de l'Arc de Triomphe, il n'a pas été remplacé par le drapeau européen. Mmh. Le drapeau français, ce qu'on appelle le grand pavois, il figure, les patriotes devraient le savoir, pour les grandes cérémonies. Donc le drapeau européen a été installé là où il n'y avait rien. Donc ces gens-là préfèrent le vide au drapeau européen. Nous sommes cohérents, nous assumons l'Europe, ça n'enlève rien à l'identité française. Et les patriotes en toc qui se font des polémiques en osant convoquer la mémoire des anciens combattants, je le dis, c'est une honte abjecte. Et que Mme Pécresse soit complice de ce dérapage de l'extrême droite, je crois que c'est une faute politique lourde.
Clément Beaune, dans Questions politiques et puis concernant la question grave et préoccupante des violences en politique, la députée du Havre Agnès Firmin-Lebaudeau a déposé plainte aujourd'hui pour menace de mort. Agnès Firmin-Lebaudeau a reçu un mail dans lequel elle est menacée de décapitation. La députée estime qu'il ne faut rien laisser passer et elle a également choisi de partager les menaces reçues sur les réseaux sociaux. À l'étranger, au Cap, en Afrique du Sud, le Parlement a été entièrement détruit par un violent incendie qui fait rage depuis ce matin. La chambre où siègent les députés a entièrement brûlé. L'origine de l'incendie n'est pas connue. Une personne a été arrêtée. Elle est en train d'être interrogée. Et le président Cyril Ramaphosa a déclaré ce matin que la personne n'était pas suspectée. Elle est juste interrogée. Et le président s'est rendu sur place. Au Cap, Claire Bargelès.
De la fumée s'est échappée toute la journée de la toiture et des fenêtres du complexe parlementaire. Sakina, venue se balader dans des jardins voisins, contemple les bâtiments victoriens blancs et rouges briques avec stupeur.
Ça fait partie de notre héritage et c'est très triste de voir cela se produire. Sans ces lieux, il n'y a plus rien à montrer à nos enfants et leurs futures générations pour raconter l'histoire de notre pays.
Le feu a débuté au sein des bâtiments les plus anciens du complexe, là où s'était également déclaré un autre incendie en mars dernier. Puis il s'est rapidement propagé au niveau de l'actuelle Assemblée nationale. Quelques cendres volaient autour de cet habitant.
Ces bâtiments ont été construits à l'époque coloniale britannique, puis le gouvernement de l'apartheid y a fait passer toutes ces lois très répressives. Et maintenant, notre démocratie y repose. Ils vont les rénover, mais je ne pense pas qu'ils reviennent jamais comme avant.
Le président Cyril Ramaphosa, venu évaluer les dégâts, regrette l'événement qu'il qualifie de dévastateur au lendemain des funérailles de l'archevêque Desmond Tutu.
L'archevêque aurait été accablé, car pour lui, ces lieux sont les garants de la démocratie pour laquelle il s'était battu.
Un homme a été arrêté et entendu par la police en connexion avec cet incendie dont on ignore pour l'instant l'origine. Au Cap, Claire Bargelès, RFI pour France Inter.
80 centimes, une mise dérisoire et un jackpot. L'année commence très bien pour une femme d'une quarantaine d'années de passage à Saint-Malo pour les fêtes. Elle a remporté plus de 200 000 euros le jour du Nouvel An au casino après avoir misé donc 80 centimes d'euros dans une machine à sous. La personne a eu du mal à réaliser ce qui lui est arrivé. La suite nous est racontée par le directeur du casino, François Stéphane Vergne.
Une personne qui a accompagné sa maman, voilà, qui est néophyte en termes de jeu sur les machines à sous, et elle a joué 80 centimes sur une machine qui a commencé à payer des bonus, et il y a eu des doubles, et la personne a doublé pour monter jusqu'à ses 209 000 euros. C'est pas une joueuse habituée, c'est quelqu'un qui était de passage en vacances pour voir sa famille sur Saint-Malo et qui a eu la bonne idée de venir tenter sa chance au casino pour remporter ce jackpot record. Le membre du comité de direction qui est en charge du jeu dans le casino est allé vers elle, il a dit voilà, madame, vous avez gagné 209 000 euros, et on se rend pas vraiment compte de ce que c'est. Et puis progressivement, voilà, le dialogue s'installe, on isole un petit peu la personne, on l'emmène au restaurant, lui offre une coupe de champagne et puis on commence à lui parler et puis là la personne commence à se rendre compte. Je pense qu'elle va se poser un petit peu tranquillement et puis elle va réfléchir à ce qu'elle va pouvoir faire de cet argent. Et c'est vrai que quand on n'y est pas préparé, les idées ne viennent pas forcément a priori très très vite.
François-Stéphane Vergne avec Thibaut Delmarle de France Bleu Armorique. <musique> 19h13 sur France Inter, la page sport de cette édition. Bonsoir Fanny Le Chevestrier.
Bonsoir Frédéric.
C'est un dimanche de Coupe de France de football avec, comme chaque année, ces belles histoires, les fêtes dans les petits clubs amateurs et souvent des surprises.
Et les surprises pour le moment s'appellent Bastia, tombeur de Clermont, club de Ligue 1, et Rennes qui a été sorti par Nice, par Nancy au tir au but. Bergerac sera de la partie, alors que son capitaine expliquait ce matin dans le journal L'Équipe le statut précaire des joueurs des petites divisions. Eh bien, son club jouera les huitièmes après avoir éliminé Créteil au tir au but. Et la joie est belle également à Versailles. Les amateurs de 4e division ont dominé La Roche et vont participer pour la première fois de leur histoire au 8e de finale de la Coupe de France. Cela valait bien une petite chanson dans les vestiaires. La joie dans les vestiaires de Versailles. On peut se douter que la fête va continuer pas mal de temps. Des scènes de fête. Et il y en aura aussi très certainement ce soir à Limoges. Bonsoir Alexandre Vaux.
Bonsoir Fanny.
Vous allez suivre à partir de 21h la rencontre entre Chauvigny, club de National 3, et l'Olympique de Marseille. Chauvigny, club amateur, hein, donc qui a mis vraiment les petits plats dans les grands en choisissant de délocaliser son match à Limoges, tout simplement pour pouvoir partager l'événement avec le plus de monde possible.
Oui, et l'US Chauvigny, hein, c'est le seul club de ces petits poussets de 5e division, effectivement, à avoir délocalisé sa rencontre aujourd'hui. C'est pourquoi le match va donc se jouer au Stade Beaublanc à Limoges, à plus de 2 heures tout de même, hein, de Chauvigny, cette commune de la Vienne près de Poitiers. Délocalisation, faut le dire aussi, un petit peu contrainte et forcée, hein, pour pouvoir accueillir comme il se doit l'Olympique de Marseille, assurer la sécurité de la rencontre avec une tribune, notamment pour les supporters marseillais, 140 agents de palpation et stadiers également mobilisés. Avec les autres frais, on est tout de même à une facture de 100 000 euros engagés. Il faut savoir que c'est presque la moitié du budget du petit club, mais l'opération ne devrait pas être blanche pour les amateurs. L'OM prend notamment en charge la location du terrain. Il y a aussi les dotations versées par la Fédération Française de Foot à chaque victoire. Et puis surtout, ces 8 000 places qui ont été vendues en quelques heures. Il y aura plus de monde en tribune ce soir que tous les habitants de Chauvigny réunis.
Un match particulier aussi, Alexandre, hein, puisque ce sera le dernier en football sans la jauge sanitaire.
Oui, ça s'est joué à un jour près du coup, hein, pour l'US Chauvigny, puisqu'effectivement les mesures du gouvernement, notamment le retour de cette jauge à 5000 personnes dans les stades, entrent en vigueur demain. Il a tout de même fallu, il faut le savoir, négocier du côté du club avec notamment la préfecture de Haute-Vienne ici à Limoges pour obtenir une jauge conservée, une jauge à 8000 places au moins ce soir. On rêvait beaucoup plus grand, notamment du côté de l'entraîneur du club qui disait il y a quelques jours que Chauvigny aurait pu remplir même un stade de Ligue 1. Mais quand même, le plus important, c'est que les amateurs vont pouvoir profiter ce soir de la plus grande page de l'histoire du club, puisque Chauvigny n'a jamais atteint ce club amateur les 16e de finale de la Coupe de France. Il faut dire aussi que l'OM a des supporters partout en France, en tout cas. Il y a de quoi rêver d'un exploit ce soir face au 3e de Ligue 1, surtout quand on se souvient qu'il y a 2 ans, Marseille avait failli être éliminé au tir au but sur 7 pelouses de Limoges face aux amateurs de Trélissac.
Ouais, et puis Marseille ne réussit pas trop ces derniers temps en Coupe de France, alors pourquoi pas un échec ce soir Chauvigny. OM, match à 21h.
Et il restera ensuite 2 rencontres à jouer.
Hein. Oui, demain soir en Bretagne, avec là encore la fête, les amateurs de Vannes qui vont recevoir le PSG sans Messi, positif au Covid, mais très certainement avec Kylian Mbappé. Et puis mardi, Lens accueillera Lille, 2 rencontres qui se disputeront donc avec des jauges à 5000 spectateurs.
Des nouvelles du Dakar maintenant et du défi électrique de Stéphane Peterhansel.
C'est malheureusement en train de tourner court pour Monsieur Dakar. 14 victoires, on le rappelle, sur le rallye, qui a perdu une roue aujourd'hui lors de la première étape. Le Français, qui on en parlait hier, dispute le Dakar au volant d'une voiture hybride. C'est totalement novateur. Il a déjà malheureusement concédé plus de 6 heures à tenter de réparer son buggy. Et puis, on vous parlait ce matin sur France Inter du début de la saison de tennis, avec notamment l'ATP Cup, compétition par équipe à laquelle les Français ont été invités à participer après de nombreux forfaits dus au Covid. Eh bien, la saison démarre très bien pour Hugo Humbert, lui qui n'avait plus gagné depuis le mois d'août, a dominé le numéro 2 mondial Daniil Medvedev en 3-7. C'est la première fois de sa carrière que le Français de 23 ans bat un top 3.
Fanny, donnez-nous des nouvelles du rugby.
Bah oui, je sais bien, l'UBB est toujours en tête, cela vous tient à cœur, du championnat de top 14. Les Bordelais l'ont emporté, mais ils ont eu du mal hein, tout de même à battre Biarritz, score final 30-27. Les hommes de Christophe Furios qui comptent désormais 5 points d'avance sur le Stade Toulousain, deuxième de ce championnat.
On va s'intéresser maintenant, Fanny, à l'Euro de handball qui démarre dans moins de 15 jours, le 13 janvier prochain, en Hongrie et en Slovaquie. L'équipe de France, championne olympique en titre, fait partie des favorites et les Français sont réunis en stage depuis dimanche dernier avec des conditions de préparation très particulières. 8 joueurs ont été testés positifs au Covid en une semaine. Malgré le Covid, les Bleus se préparent dans leur bulle sanitaire très stricte. C'est le long format ce soir, signé Arthur Frandin.
Quand on l'interroge sur la période actuelle, le sélectionneur de l'équipe de France de hand, Guillaume Gilles, parle de bel exercice de style. Faire de l'équilibrisme entre 4 Covid pour composer son équipe, cela a un côté stimulant, mais seulement jusqu'à un certain point.
Clairement, si ça pouvait s'arrêter, ce serait aussi une bonne chose, parce que repenser les organisations d'entraînement, redéfinir les axes de travail avec les joueurs, ne pas pouvoir connaître l'équipe avec laquelle on va fonctionner. On s'éloigne des conditions optimales pour pouvoir préparer une compétition aussi difficile qu'un Euro.
Pour éviter les contaminations, les joueurs sont aujourd'hui soumis à un protocole très rigoureux. Pierre-Sébastien est le médecin de l'équipe de France.
Les gens, quand ils sont positifs, 8 jours après ou 10 jours après, ils peuvent reprendre leur travail sans avoir besoin de refaire un test. Nous, on a décidé de ne pas laisser rentrer quelqu'un qui soit toujours positif. Et on sait que ça peut être que des débris de virus qui sont là.
Une batterie complète de mesures sont aujourd'hui déployées. Prise de sang avant de réintégrer l'entraînement, échographie cardiaque. À leur arrivée pour ce stage, les joueurs avaient tous été placés dans des chambres individuelles avant d'être testés. Et ces mesures, elles ne sont pas toujours simples à mettre en place pour Pierre-Sébastien.
Toutes ces mesures qu'on leur fait prendre et dont on se sent obligé, c'est liberticide, bien entendu, que quand vous empêchez des gens de vivre leur passion, ils sont pas heureux.
Ludovic Fabregas, pivot de l'équipe, avoue que le Covid est un poids psychologique supplémentaire dans une saison déjà marquée par une certaine usure physique.
C'est vrai que c'est une situation qui est compliquée, mais elle n'est pas forcément que pour nous sportifs de haut niveau, elle est aussi pour les gens en général, au quotidien. Donc à nous de nous adapter, prendre un petit peu sur nous, parce que c'est pas quelque chose de simple, on n'a pas eu de vacances, on n'a pas eu de temps pour souffler.
Du temps pour souffler, justement, il y en a quand même eu pour ce premier de l'an. Les joueurs habilités ont eu l'autorisation de rentrer dans leur famille, à condition de respecter un protocole sanitaire strict. Leur retour est prévu aujourd'hui. Le premier match de l'Euro est programmé le 13 janvier en Hongrie contre la Croatie. Tout a déjà été pensé pour ne pas exposer les joueurs lors du déplacement, explique Philippe Bana, président de la Fédération française de handball.
Même si ça nous coûte une petite fortune, on va sans doute prendre un vol privé pour aller en Hongrie. Ce sera plus sûr, là, tout simplement.
Reste à savoir si la compétition va bien se tenir. La décision reviendra aux instances européennes ou aux pays hôtes en fonction de la circulation de l'épidémie. Quoi qu'il en soit, Guillaume Gilles affirme que ses troupes se préparent comme si elles devaient jouer cette compétition. Pour le sélectionneur, il serait dommage de sacrifier l'Euro sur l'autel du Covid.
L'équipe de France de handball, préparation chaotique avant l'Euro, long format signé Arthur Fradin. Et puis ce premier match de préparation vendredi prochain contre l'équipe à Chambéry avec deux joueurs absents chez les Bleus. Le pivot, Lucas Karabatic, blessé à la cuisse droite et contraint de déclarer forfait. Mais également Elohim Prandin, victime d'une agression au couteau lors du réveillon de la Saint-Sylvestre. Il a également déclaré forfait.
Le journal de 19h. Frédéric Barrère.
À suivre la semaine prochaine et on ouvre l'agenda des temps forts de l'actualité de la semaine qui vient, première semaine de l'année, avec à noter demain à l'Assemblée nationale le début du débat dans l'hémicycle sur le pass vaccinal. Le texte sera examiné ensuite au Sénat mercredi dans le cadre du projet de loi renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire. Sur l'agenda judiciaire, le rendez-vous est fixé à mardi avec la comparution à Paris de 4 policiers en conseil de discipline. 2 autres comparaissent à Bordeaux. Ils sont impliqués dans le traitement du féminicide de Mérignac où un homme avait brûlé vive sa femme en pleine rue. Il est notamment reproché à ces 6 policiers des manquements administratifs ou des erreurs d'appréciation dans le cadre de ce féminicide. Et mardi également, déplacement de Valérie Pécresse en Ile-de-France consacré aux violences faites aux femmes. L'autre rendez-vous judiciaire mardi, la cour d'assises spécialement composée de Paris se réunira pour la reprise du procès des attentats du 13 novembre 2015, mais les débats ne reprendront certainement que jeudi à cause de la période d'isolement du principal accusé, Salah Abdeslam, testé positif au Covid lundi dernier. Un premier retard dans ce procès fleuve, entamé il y a 4 mois et prévu pour durer au moins jusqu'à fin mai, Jean-Philippe Deniaud.
Depuis le 8 septembre, outre les 4 semaines consacrées aux auditions des victimes et de leurs familles, la Cour n'a pas encore abordé les faits. Les 14 accusés présents ont pu s'exprimer sur leur personnalité. De nombreux enquêteurs ont abordé le contexte dans lequel ces attentats allaient survenir en 2015. Mais c'est seulement à la reprise de l'audience, dans quelques jours donc, que les questions de radicalisation et de basculement dans le terrorisme seront évoquées. D'abord, avec les accusés partis en Syrie, 5 d'entre eux y ont fait des séjours avant 2015. 2015, puis avec les 9 autres restés en Belgique. La Cour abordera ensuite les préparatifs des attentats et le passage à l'acte, auquel certains des accusés nient toute participation. Enfin, le procès laissera la place aux plaidoiries, environ 3 semaines pour les avocats des parties civiles, tout autant pour ceux de la défense, et 3 jours au mois de mai pour le réquisitoire des 3 avocats généraux. Le verdict est pour l'instant envisagé le 25 mai.
Jean-Philippe Deniau, sur l'agenda européen et la présidence française du Conseil de l'Union européenne, la réunion a noté jeudi entre Emmanuel Macron, qui reçoit le Collège des commissaires européens, a noté la veille, mercredi, le début du CES de Las Vegas, le grand salon de l'électronique et des technologies, un salon raccourci d'une journée à cause de la flambée du variant Omicron aux États-Unis. Enfin, a signalé l'apparition jeudi de la publication 5 ans pour sauver notre humanité, publication de Jean-François Julliard, le directeur de Greenpeace France, qui adresse un ultimatum aux politiques avant le prochain quinquennat. Voilà pour l'agenda. On termine avec une tradition qui perdure au fil des années, jusqu'à la fin du mois de janvier. C'est le moment d'adresser vos vœux pour la nouvelle année. Vous avez peut-être déjà reçu des cartes de vœux électroniques, ou demain, dans votre boîte aux lettres, vous trouverez une carte personnalisée. Cette tradition des vœux en début d'année est-elle toujours respectée? Est-elle dépassée ou ringarde? Benoît Martin a créé en 2005 Popcart, une société qui propose des cartes de vœux personnalisées en ligne, des cartes qui peuvent également ensuite être imprimées en Bretagne, et avec déjà 20 millions de cartes envoyées et une croissance de 20% par rapport à l'an dernier. En tout cas, nouveauté cette année, on peut aussi envoyer ses vœux par la poste à son chien ou à son chat. Il y a des cartes exprès. Benoît Martin, patron de Popcart, avec Agnès Soubiran.
Mais l'idée, c'était justement de permettre aux personnes de pouvoir partager les photos sur un support papier, donc la carte de vœux ou la carte postale, qui allait rester, contrairement à une photo numérique qu'on s'envoie par Facebook, Instagram ou WhatsApp, qui s'efface très vite, une nouvelle photo en chassant une autre, alors que quand on l'envoie sur une carte papier, elle reste sur le bureau, sur le frigo. Et c'était ça l'idée de départ. Et alors aujourd'hui, non seulement cette idée tient toujours, mais elle continue de se développer. Malheureusement, j'ai envie de dire, à cause de la crise sanitaire, où on a un petit peu plus de mal à avoir ses proches. Et justement, envoyer une carte papier qu'on va recevoir dans sa boîte aux lettres, ça fait extrêmement plaisir. Et de plus en plus de clients se tournent vers les cartes de vœux en ce moment, notamment du fait de la crise sanitaire.
Quel est le client type d'une carte de vœux?
Alors le client type, c'est souvent la mère de famille qui entretient le lien social de la famille et qui généralement va envoyer donc sa carte de vœux avec des photos des enfants, des photos des moments importants de l'année qui vient de s'écouler, et qui va partager cette carte de vœux avec ses proches et ses amis.
Et que se souhaite-t-on sur une carte de vœux?
Alors, de manière assez classique, on se souhaite une bonne année, qu'on soit heureux. Et c'est vrai que, encore une fois, le contexte, c'est vrai que le contexte ambiant fait qu'il y a vraiment le souhait de se retrouver, de prendre soin de soi. C'est un message qu'on retrouve beaucoup, encore une fois, à cause du contexte sanitaire. Mais parfois, effectivement, on a des messages un petit peu surprenants où certains clients vont envoyer des cartes de vœux à leur chien ou à leur chat.
Et en leur souhaitant quoi? Ou avec des photos de chiens et de chats?
Alors, effectivement, ce sont des photos pleines d'attention, où en général, on va retrouver la photo du chat ou du chien de la famille, et avec un message qui lui est personnellement adressé pour qu'il passe une bonne année.
Voilà, des vœux pour tout le monde, et on a jusqu'au 31 janvier pour envoyer sa carte de vœux. Benoît Martin, patron de Popcart, avec Agnès Soubiran. Au générique de cette édition, Thomas Langlin et Florian Dorimini en régie. Merci à eux, ils m'ont aidé à préparer ce journal, avec Anne Patinec à la rédaction en chef, assistée de Carline Desrosiers et Swad Bellani. Un grand merci à l'équipe et merci à vous d'avoir écouté ce journal. Dans un instant, la météo.
La météo avec Bleu-Forêt, le fabricant français de chaussettes pour hommes, toutes naturelles, cachemire, fil d'Écosse, soie ou coton, et maintenant en lin. Rendez-vous sur bleuforêt.fr.
Jean-Pierre Hameau.
Avec le retour d'un flux océanique, les perturbations vont se succéder la semaine prochaine. Demain, nous suivrons l'arrivée d'une nouvelle onde pluvieuse intéressant en matinée la Bretagne, les pays de la Loire et la Normandie, pour gagner l'après-midi la région centre, l'Île-de-France, les Hauts-de-France, puis la Champagne-Ardenne et la Lorraine. Et attention, les cumuls de pluie seront assez importants entre la Bretagne et le Cotentin. Du Poitou-Charentes à l'Alsace, en passant par le Massif central, la nébulosité sera importante et les précipitations seront espacées et faibles. Vous profiterez encore d'un bon ensoleillement de l'Aquitaine au Languedoc-Roussillon en passant par Midi-Pyrénées et de la région Rhône-Alpes à la région PACA sans oublier l'île de Beauté. Les températures maximales évolueront entre 12 et 20 degrés. Prévoyez 12 degrés à Dijon et Besançon, 13 à Paris comme à Rennes, Tours et Strasbourg. Comptez 14 à Lyon, 15 à Toulouse, 17 à Bordeaux. Le mercure jouera avec la barre des 20 degrés à Biarritz.
Jean-Pierre Hameau de Météo France.